Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche soir sur cette libre antenne avec une voix qui n'est pas encore au top mais qui revient. Je ne sais pas si vous l'aviez noté, dimanche dernier c'était la fête des grands-parents. Alors je n'étais pas là pour en parler avec vous, mais rien ne nous empêche de le faire ce soir. Parce qu'en réalité, bien sûr, il n'y a pas de jour précis pour être grand-parent. Peut-être avez-vous la chance d'être une grand-mère ou un grand-père comblé. Alors venez m'en parler ce soir en appelant le 3921. Peut-être avez-vous des grands-parents avec qui vous avez une relation particulière, là aussi votre témoignage m'intéresse. Même si pour une raison ou pour une autre, ce lien n'existe pas ou plus, vous savez que quoi qu'il arrive, c'est parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont existé que nous sommes là aujourd'hui. Et même si nous ne les avons pas vraiment connus, nous sommes liés à eux par notre héritage génétique. Héritage qui, quelquefois, c'est vrai, nous laisse aussi des cailloux dans les chaussures. Parfois, on exprime une souffrance, dépression, angoisse, phobie, dont on ne trouve pas d'origine dans notre histoire personnelle. Aucun traumatisme, aucune raison d'aller si mal. Il est alors intéressant d'aller explorer l'histoire de notre famille. La clé de l'énigme y est souvent cachée. Nous le savons aujourd'hui grâce à des tests ADN qui révèlent les traces des chocs traumatiques. Nous sommes le réceptacle des trois générations qui nous ont précédés. Et souvent la souffrance que nous exprimons est la nôtre, certes, mais aussi celle plus ou moins enfouie d'un autre membre de la famille. C'est ce qu'on appelle la résonance émotionnelle. Et c'est quand on prend conscience qu'on est le dépositaire de souffrances qui ne nous appartiennent pas directement, qu'on peut commencer à s'en libérer. Prenez donc le temps de regarder d'où vous venez pour comprendre où vous en êtes. De tout ça et de bien d'autres choses encore, nous pouvons parler ce soir sur cette libre antenne. Hassan et Oscar sont prêts à recevoir vos appels au 3921. Pour participer ou réagir par SMS, vous faites comme d'habitude le 739-21 en commençant par le mot « nuit ». Vos SMS pour réagir à ce qui se passe à l'antenne, apporter un témoignage, un conseil, une idée. Vous savez que cette libre antenne est une grande famille dans laquelle, pour le coup, on hérite uniquement de choses constructives. Enfin, celui dont j'ai hérité pour la réalisation ce soir, et j'en suis ravie, c'est Fabrice Fougeoz.
22h30, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et le premier appel que je prends ce soir, c'est le vôtre. Ida, bonsoir.
Bonsoir Sabine, j'espère que vous allez mieux.
C'est gentil, petit avis, j'ai beaucoup de mal à me remettre d'une grosse trachéite. Je suis désolée surtout pour les auditeurs, la voix n'est pas terrible, mais j'espère en tout cas qu'elle passe quand même. Et je suis là pour vous.
Merci. Donc voilà, ça fait pas longtemps que j'ai découvert votre émission. Et il y a un soir, dans la même soirée, il y avait deux témoignages qui m'avaient parlé par rapport à mon histoire. Donc je me suis permis de vous écrire et je vous remercie de me rappeler parce que je voulais avoir quelques conseils. Je vais essayer d'être claire. C'est pas évident de parler de soi comme ça. Voilà, j'ai 53 ans et j'ai un frère qui est né en 61, donc à 58 ans. Et j'ai appris, lorsque j'avais 8 ans, en entendant une conversation d'adulte, que j'avais eu une sœur qui était née en 1961 et qui était décédée.
À quel âge elle est morte ?
Elle est décédée à peu près un mois d'existence.
Donc, est-ce que c'était une mort subite du nourrisson ou un accident ?
Non. Apparemment, c'était un problème respiratoire, mais j'en sais pas plus.
D'accord.
Parce que ma mère, beaucoup plus tard, m'a expliqué que les médecins n'expliquaient pas tant les choses que ça. Donc, voilà. Et déjà enfant, je n'ai manqué de rien matériellement, mais je sentais un mal-être. Et quand j'ai appris à 8 ans tout ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais j'ai fait une tentative de suicide. Je dis tentative de suicide, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Les psys, après, m'ont dit que c'était une tentative de suicide, mais j'ai avalé des médicaments qui n'étaient pas mortels. J'étais seulement très malade.
D'après ce que vous me dites, vous, l'intention de ne pas rester là était là, en tout cas.
Oui, tout à fait.
L'intention de partir, comme si d'un seul coup, vous n'aviez plus votre place.
Voilà, tout à fait. Et puis, peut-être une ou deux semaines après, j'ai essayé de m'ouvrir les veines. Et ben, j'ai une gifle pour me remettre les idées en place. Et puis, voilà.
Oui.
Et puis, le temps a passé. Et j'ai toujours subi ce... Enfin, ressenti ce mal-être. Et beaucoup de... J'avais très peur de mon père aussi. Toujours mal au ventre. Et j'ai toujours mal au ventre à 53 ans. Et aussi, j'ai été témoin de choses comme... de violence vis-à-vis de mon frère par rapport à mon père, c'est-à-dire qu'il lui donnait des coups de ceinturon. Moi, j'ai jamais reçu de coups. Enfin, voilà, c'est pour vous expliquer en gros. Mmh. Et ben, j'ai jamais, finalement, j'ai jamais trouvé ma place de petite fille. J'ai grandi comme ça. Je m'aperçois que dans ma vie, ben, j'ai fait les mauvais choix. J'ai toujours été introvertie. Manque de confiance en moi, tout ça. Mmh. Et j'ai toujours des relations très chaotiques avec mes parents. Et je suis quelqu'un qui est souvent dans l'empathie. J'ai fait beaucoup de séjours étant jeune en hôpital psychiatrique.
Oui.
Beaucoup de tentatives de suicide. Mal dans ma peau. Et parallèlement, j'avais une grande joie de vivre. C'est assez paradoxal. C'est comme ça. Et puis, enfin, toute ma vie a été chaotique, prise de poids, parce que je me jetais sur la nourriture.
Et oui, c'est aussi une manière d'essayer de prendre sa place, finalement, inconsciemment.
Voilà, tout à fait.
Si je n'arrive pas à prendre la place, ou si on ne me la laisse pas, je peux avoir tendance à la prendre en prenant plus de place physiquement.
Voilà. Mmh. Et donc, en fin de compte, je n'arrive pas, étant adulte, et même à mon âge, même si je fais un travail avec une psychologue, à gérer mes émotions, je me sens toujours comme un fardeau. Je peux aller très bien, puis dans la même journée, décliner psychologiquement. Et aussi, ma santé s'en est ressentie. Je ne peux plus travailler. J'ai eu diverses pathologies. Et en 2014, on m'a décelé un cancer. J'ai eu des rayons, je m'en suis bien remise, j'étais très battante, je ne me suis pas laissée aller. Et c'est après coup, tout a dégringolé à ce moment-là. Et j'ai aussi des séquelles de ce cancer, donc je ne peux plus travailler, j'ai été mise en inaptitude. Et puis on m'a découvert une fibromyalgie, bref, je ne peux plus travailler. Ouais. Mais heureusement, je suis quelqu'un qui arrive quand même à m'occuper.
Je peux vous demander un cancer de quoi, Ida ?
J'ai eu un cancer de la parotide droite.
D'accord.
Donc, voilà. Et donc, j'ai pas précisé aussi, j'ai deux enfants et je suis mamie d'une petite fille. Et donc, mes relations quand même avec les gens, c'est assez chaotique parce que je me sens toujours délaissée. Enfin, je sens que cette enfance a joué sur ma vie. Et pourtant, je le travaille. Et dernièrement, j'ai été invitée à passer des vacances chez mes parents qui sont dans le sud. D'ailleurs, mes enfants sont dans le sud, ma petite fille aussi. Et mon meilleur ami a été invité aussi. Et donc, on y a été. Et puis, il y a eu des petits pics par-ci, par-là. Et puis, un soir, ça a clashé. Et là, ma mère m'a dit « Je ne supporte pas ta voix ». Et mon père m'a demandé de ne plus lui adresser la parole. Donc, nous avons fait nos valises sur le champ, nous sommes partis. Et là, ça a été une fois de plus, mais ça a été la fois de trop. Et c'était la fois où j'ai réalisé que ce n'était plus la peine pour moi d'insister. Qu'ils ont peut-être, j'en ai parlé avec ma psychologue, ils ont sûrement dû idéaliser ma sœur. Et moi, je représente quelque chose de carrément négatif. Donc, j'essaye de... Je me dis, il faut que je ne sois plus dans l'empathie, que j'accours vers eux si eux ne vont pas bien. Il faut vraiment que je tienne ma position. Mais je voudrais faire le deuil de ma sœur. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de concession. Je n'ai pas de photos, je n'ai rien de concret et je ne sais pas comment faire ce deuil parce que je voudrais avancer. J'ai l'impression, quelque part, que je vais renaître qu'à 53 ans. Ou que je vais naître à 53 ans. C'est difficile pour moi. J'ai tellement versé de larmes ces dernières semaines.
Et peut-être que c'est le moment. Peut-être que là, ce point de non-retour là, avec vos parents va être le déclenchement, comme vous dites, d'une renaissance.
Je pense aussi.
Il y a beaucoup...
Enfin, je me dis qu'il faut que je... que je me serve de ça pour avancer. Toute ma vie, j'ai essayé d'être aimée de mes parents. Toute ma vie, ça a été un échec. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire de votre histoire là, depuis tout à l'heure. J'écoute tout ça consciencieusement. Vous êtes déjà l'exemple type de l'introduction que j'ai donnée à cette émission, c'est-à-dire vous avez hérité de douleurs qui ne sont pas à vous. Vous avez hérité de blessures qui ne sont pas les vôtres, qui sont celles de vos parents.
Oui.
Et rien n'a été fait comme il aurait dû dans cette famille. Comme vous le dites vous-même, les médecins n'ont pas pris le temps d'expliquer les choses. Si j'ai bien compris, votre papa et votre maman, ils ont perdu leur premier enfant.
C'était le deuxième.
Ah, c'était le deuxième. Le garçon était plus âgé.
Oui.
Donc c'était leur deuxième enfant et leur première fille.
Oui.
D'accord. Et vous êtes arrivée après elle.
Voilà.
Donc la perte de cette petite fille a dû évidemment être d'une violence extrême. Et générer chez eux beaucoup de colère que votre papa, d'une manière extrêmement maladroite, exprime par une violence physique, parce qu'il n'a probablement pas appris à gérer cette douleur-là, et que votre mère a géré, peut-être en vous rejetant, peut-être pas, peu importe, vous l'avez ressenti comme ça. On ne connaît pas le fond de l'histoire ni ce qui se passe dans son cœur à elle, peut-être qu'elle ne vous a pas du tout rejeté, mais vous l'avez senti comme ça, comme si elle n'avait pas pu aimer une autre fille que celle qui était partie. Ensuite, ce qui n'a pas été fait correctement, c'est qu'on ne vous a pas dit les choses. Vous l'avez dit, si j'ai bien compris, à l'âge de 8 ans, vous avez entendu une conversation qui ne vous était pas destinée.
Et oui, j'ai essayé de comprendre il y a peu de temps, lui demander pourquoi ce secret. Pour moi, c'est un secret de famille.
Tout
elle me dit que non.
Bien sûr
elle
que
me
si.
Dit que non.
Bah si. Par définition, quelque chose qu'on ne dit pas franchement à un enfant. Et c'est dramatique parce que souvent on a peur de dire les choses à un enfant, alors que quand on ne les dit pas, ce qu'il imagine est bien pire que la réalité souvent. Si on vous avait dit des choses avec des mots d'enfant à l'époque, si on avait mis des mots précis sur ce qui s'est passé, je pense que ça aurait aidé tout le monde. Mais ça n'a pas été fait. Donc vous avez capté...
Oh, excusez-moi. En plus, pour eux, ce qui était douloureux, c'est que moi aussi, j'ai failli mourir à la naissance et j'étais longtemps en couveuse.
Oui, donc il y a une angoisse. Il peut y avoir eu un phénomène de rejet par peur de plein de choses, mais ça, c'est leur histoire à eux. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils n'aient pas soigné ça. Parce qu'en ne se soignant pas, ils vous ont fait du mal à vous.
Oui.
Donc ça, c'est une évidence. Ensuite, évidemment, tout ce qui s'est passé dans votre vie, bon, on va quand même parler du positif. Vous avez mentionné cette joie de vivre et c'est ça qui, je pense, fait que vous êtes toujours debout, que vous avez eu des enfants, que vous avez avancé quand même. Il y a une partie de vous qui est une battante.
Oui, tout à fait. Même quand j'avais 17 ans, la psychiatre, elle m'avait même dit, lors d'un entretien, c'était mon père qui aurait dû être à ma place. Elle m'a dit qu'elle était très optimiste. Parce que quand je touchais le fond, je remontais toujours.
C'est ça, mais je crois qu'inconsciemment, vous avez vite compris que vous ne pourriez compter que sur vous dans cette vie-là et dans cette famille-là. Et que quelque part, ça nous donne de la force aussi. C'est aussi parce que vous avez surmonté tout ça que vous avez cette force en vous de tenir debout et d'avancer. Donc ça, c'est déjà formidable et vous pouvez être consciente de ça. C'est déjà très important. Consciente de cette force que vous avez en vous, cette capacité. Maintenant, effectivement, vous avez compris que vos parents sont des grands blessés de la vie, on va dire, tous les deux, qui n'ont pas été aidés ou qui n'ont pas désiré se faire aider pour soigner ces blessures-là et que du coup, ça s'est répercuté sur vous. Effectivement, vous êtes en train de le comprendre. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous n'êtes jamais en odeur de sainteté, ça ne va jamais.
Non, ça va jamais. Et ça a été violent quand ma mère m'a dit, c'est vrai que j'ai une petite voix, mais je n'y suis pour rien. Et je ne criais même pas, elle m'a dit, je n'aime pas ta voix, je ne la supporte pas. Et ce n'est pas la première fois qu'elle me le dit. Et je me dis, si ma mère n'aime pas ma voix, mais qui peut aimer ma voix? Enfin, je me suis sentie une nouvelle fois rejetée.
Moi, quand j'entends ça, je n'entends pas la voix avec un X, mais la voix avec un E. Elle aime pas le chemin que vous avez pris jusqu'à elle, en fait. Je pense que c'est bien plus profond que ça. C'est bien plus profond que ça. C'est vraiment un problème de rejet inconscient, parce que trop de souffrance avec cette petite fille qui est arrivée avant vous, quoi. Mais aujourd'hui, ce que vous pouvez comprendre, c'est que vous ne pourrez pas changer ni ce qui s'est passé, ni le comportement de vos parents. Donc la seule chose que vous pouvez changer, c'est comment vous allez vous positionner maintenant par rapport à tout ça. Et je crois que vous avez déjà commencé ce chemin-là. Vous avez déjà compris beaucoup de choses. Vous avez mentionné que vous n'avez pas fait le deuil de cette grande sœur, c'est-à-dire
je suppose qu'il faut que je fasse le deuil pour avancer. Ça fait partie, non?
Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas fait le deuil?
Parce que je pense tout le temps à ma sœur que je ne connais même pas, parce que j'ai essayé de parler durant des années avec avec ma mère, c'était un psychiatre qui m'avait dit de le faire. Je n'osais pas, j'avais peur de réveiller de sa souffrance, mais je l'ai quand même fait. Et alors, c'était style, j'ai dit, maman, si elle était, je lui ressemblais à ma sœur, pas du tout. Si elle aurait vécu, je serais là, mais certainement pas.
Oui, c'est pas, ça s'appelle pas un dialogue, ça. C'est, elle est dans l'évitement, votre mère.
Et un jour, elle m'a dit quand même, Ida, je voudrais te remercier parce que grâce à toi, j'ai fait le deuil de Sabine. Elle s'appelait Sabine. Mmh. Je préfère la savoir où elle est qu'elle ait une vie pourrie comme la tienne. Voilà le genre de choses. Alors que mes parents,
toxique,
les gens les apprécient. Et moi, si je parle de mes parents comme ça, on ne le croit pas. Et pourtant, c'est des mots que ma mère m'a dit. Ça fait mal. Mais même adulte, ça fait mal.
Les relations que les gens ont avec eux n'ont rien à voir avec la vôtre. Ça n'est même pas comparable.
Oui.
Vous êtes au cœur là, d'un drame familial et c'est vous qui avez tout pris sur les épaules. Alors, pour en revenir au deuil de votre sœur, que vous pensiez à elle souvent, ça ne me paraît pas un problème. Un deuil, c'est quelque chose qu'on sait avoir fait quand on peut penser à la personne sans que ce soit violent ou douloureux. Si vous arrivez à penser à elle comme une présence, comme quelqu'un qui a été là sur votre chemin de vie avant vous et qui est reparti, si vous êtes OK avec ça, apaisé, alors le deuil est fait. Si vous avez encore des douleurs dans le ventre, qui est le centre de nos émotions, si vous avez des larmes qui coulent, si vous vous sentez instable quand vous pensez à elle, alors c'est que le deuil n'est pas fait.
Et c'est-à-dire que lorsque je pense à elle, je pense fatalement à mes relations avec mes parents. Mais avant, je lui en voulais à cette sœur qui n'y est pour rien. Mmh. Mais maintenant, depuis cette dispute, depuis mon retour, je ne lui en veux plus, à mes parents que j'en veux. Et je ne veux plus me laisser faire. Voilà. Je suis catégorique maintenant. Je ne veux plus. J'ai l'impression d'avoir gâché toute mon existence.
Non,
J'ai l'impression d'avoir buté sur ça et de ne pas avoir avancé. Ça m'a empêché d'avoir confiance en moi. J'ai fait que les mauvais choix. Je me suis mariée avec un homme qui buvait, qui m'humiliait. J'ai fait que les mauvais choix. J'ai pas su rencontrer les bonnes personnes. J'ai pas fait le métier que je voulais. J'ai l'impression que j'ai pris un mauvais départ et ça m'a fait prendre un mauvais chemin.
C'est pas que vous avez fait les mauvais choix, Ida. C'est que vous avez reproduit cette blessure de rejet, d'abandon. Vous êtes remis systématiquement dans des situations où vous pensiez ne pas mériter une place.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison.
Et après, ça sert à rien de se dire « j'ai perdu tant d'années ». Je pense que chacun avance à son rythme et qu'il arrive un jour où on est prêt à vraiment comprendre les choses. C'est tout. Il n'y a pas de vitesse réglementaire là, sur ce terrain-là. C'est, voilà, vous êtes encore jeune, vous avez pris ce temps-là pour grandir et comprendre les choses. Et aujourd'hui, vous êtes suffisamment mature pour comprendre qu'effectivement, il va y avoir un travail à faire. Peut-être que pour votre sœur, vous pouvez simplement, dans le fond de votre cœur, prendre un moment pour vous poser, allumer une bougie et lui parler, simplement dans votre cœur. Lui dire exactement tout ce que vous ressentez, que vous aviez de la colère contre elle au départ, qu'aujourd'hui vous ne l'avez plus, que vous vous sentez rejeté par vos parents à cause de ce qui s'est passé, de cette souffrance-là, que vous espérez qu'elle va bien, mais que vous prenez maintenant votre vie en main. Quelque chose comme ça, vous voyez. Simplement libérer ces mots-là à l'intérieur de votre cœur.
D'accord.
Et ensuite, travailler avec votre thérapeute ou un autre avec d'autres sortes de thérapies pour prendre cette bonne distance émotionnelle par rapport à vos parents et couper tous ces liens toxiques. C'est plus à eux de décider comment ça va se passer vos relations.
Vous savez, c'est assez horrible parce que ils ont 82 et 87 ans. Donc je pense au futur et je me dis qu'un jour ils vont disparaître.
Oui.
Et je me dis j'irai à l'enterrement parce que c'est un besoin chez moi de faire le deuil, mais c'est tout. Je ne veux même plus m'occuper de celui qui restera. J'ai trop donné, je ne peux plus. J'ai trop donné émotionnellement, je veux dire. Je ne peux plus. Du moins, aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable et je veux me protéger parce que je suis quelqu'un qui est toujours dans l'empathie, qui m'inquiète toujours pour les autres, qui me rend malade pour les autres. Et
ben oui, bien sûr.
Et voilà, quoi, c'est moi qui paye les pots cassés. Et là, j'ai décidé de me protéger. Et j'ai peur de craquer. Vous comprenez? J'ai peur de... En plus, je suis loin d'eux au niveau géographique.
Alors, deux choses avant d'étudier cette peur de craquer. Quand on a été une petite fille qui n'a pas été aimée, à qui on n'a pas laissé sa place, en fait, on développe énormément d'empathie parce qu'on ne sait plus quoi faire pour être aimée. Et on est prêt.
Vous avez raison, c'est ça, tout à fait.
On est prêt à aider la terre entière, à être effectivement dans l'empathie permanente, on est prêt à se dévouer tout le temps pour les autres en disant il y en a bien un qui va me donner ma place et qui va m'aimer à ma valeur. Mais
voilà,
en fait, c'est une erreur, parce que c'est pas comme
oui.
ça qu'on répare cette blessure-là. Et la deuxième chose, quand vous me dites j'ai peur de craquer, c'est-à-dire vous avez peur de craquer à quel moment ?
Mais j'ai peur de, par exemple, c'est dur, je me projette, hein, parce que pour moi, la mort, ce n'est pas tabou du tout. Mmh. J'ai peur que le parent qui reste, je le vois à l'enterrement de l'autre parent, de craquer, de dire parce que je voulais déménager, revenir me rapprocher de ma famille, de mes enfants, de ma petite fille, de mes parents, et m'occuper de mes parents. Et j'ai peur de me dire, eh ben, j'oublie tout le mal, et puis, parce que je sais que ça clashera et que ça va me détruire encore plus. Et c'est ça, je veux pas donner.
Alors attention, Ida, le passé est lourd, l'avenir n'est pas encore là, on va peut-être s'occuper du présent d'abord.
Hein. Oui,
vous emportez beaucoup déjà du passé sur les épaules. Si vous commencez déjà à vous mettre sur le dos un avenir hypothétique, on va pas y arriver. La vie, elle se vit aujourd'hui au présent, à chaque moment. Donc, il y a déjà un travail à faire là, maintenant. Moi, je vous conseillerais vraiment, en plus d'une psychothérapie classique, d'aller faire quelques séances d'hypnose thérapeutique, d'abord pour le deuil.
J'en fais déjà au centre antidouleur pour mon cancer.
Et oui, mais vous travaillez uniquement sur la gestion de la douleur.
Ouais, et quand même le stress, quoi, parce que...
Oui, ça va avec, quelques
jours, avec sûr, moi, oui, mais je fais déjà ça... à l'Institut de Lorraine.
Ben moi, ce que je vous suggère, c'est de vous servir de cet outil-là, l'hypnose thérapeutique, pour travailler sur les liens avec vos parents. Et pour reprendre votre place à vous. Puisqu'on ne vous la donne pas, eh bien, vous allez la prendre toute seule, cette place. Et puis, ce que je vous suggère aussi, j'ai bien compris que parler avec vos parents est compliqué et douloureux et que ce sont des gens âgés, mais vous pouvez aussi vous libérer par une lettre ou par un enregistrement que vous faites en leur disant simplement tout ce que vous avez sur le cœur et en leur disant, écoutez, vous ne m'avez pas donné ma place, mais moi, aujourd'hui, Ida, en tant que femme adulte, je prends ma place. Je redresse
et
les épaules.
Je leur envoie.
Je ne suis même pas sûre. De ce que j'entends, je ne suis même pas sûre que c'est un intérêt quelconque, parce que ça va vous stresser de l'envoyer. Vous allez avoir peur de leur réaction et vous allez vous retrouver à nouveau dans le rôle de la petite fille qui a peur de la réaction de ses parents.
Parce que j'ai déjà écrit, en rentrant de vacances, là, j'ai déjà écrit à mes parents. J'ai une lettre de 17 pages et j'ai fini par la jeter.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre ?
C'était beaucoup de colère, hein, sur le coup. De colère et de... Je pleurais. Hein, parce que là, vous m'entendez assez calme, mais il y a encore deux semaines, c'était des sanglots. À chaque fois que je parlais de mes parents, je pleurais. C'était horrible. Hein.
Alors, c'est déjà bien que la colère soit sortie. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous affirmiez les choses. Effectivement, vous pouvez la jeter, la brûler, la mettre dans un fleuve, cette lettre, mais simplement... Leur dire, voilà, maintenant, ça suffit. Il y a un moment où c'est le moment, à 53 ans, je suis grande, et je prends ma place. C'est comme ça.
D'accord.
J'avance en fonction de moi et de mes enfants. Et des gens que j'aime vraiment et qui sont ma famille aujourd'hui. On a reçu un message, effectivement, de quelqu'un qui vous propose d'essayer les constellations familiales, qui est une manière aussi de régler ses problèmes avec la famille. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Non.
Renseignez-vous sur les thérapies par constellation familiale, où en fait on vous fait revivre de manière symbolique les liens avec certaines personnes de votre famille, qui sont joués par d'autres patients. Ce sont des thérapies de groupe.
Ah, d'accord.
Et ça permet de sortir des choses, et c'est assez surprenant comme thérapie. Ça fonctionne bien aussi pour se repositionner par rapport à quelqu'un.
Je vais me renseigner.
Constellation familiale, vous verrez ça.
Oui, j'ai noté.
Et toutes les maladies dont vous m'avez parlé, pour moi, sont aussi le résultat de tout ça, de tout ce stress, de toute cette colère.
C'est ce que je pense. Hein. Et vous savez, j'ai pris beaucoup de poids, puis ça a été un cercle vicieux, parce que dès 17 ans, on ne m'a pas posé la question. J'étais hospitalisée, j'ai été mise sous antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères. Donc j'ai pris beaucoup de poids, là-dessus j'ai mangé.
Oui.
Le tout m'a fait grossir, puis j'ai fait toute ma vie des régimes. Donc l'effet yo-yo, puis j'ai décidé de faire une chirurgie bariatrique.
Mmh.
Il y a eu 2 ans de préparation et je me suis dit, je vais renaître, je vais être heureux, je vais être bien dans ma peau. Et bêtement, je me suis dit, il ne manquerait plus que j'ai un cancer.
Et voilà.
Je l'ai eu, le cancer. Voilà.
Le problème, c'est que le poids n'est pas une cause, mais une conséquence. Et que tant que la cause est là, la conséquence, ça ne sert à rien de travailler dessus. Vous me dites, j'ai été mieux dans ma peau, mais non, parce que le problème, il est pas là, il est à la base, ce manque de place, quoi.
Oui. Mais J'essaye vraiment de... Je comprends leur chagrin. J'imagine qu'on ne peut pas faire le deuil d'un enfant. Mais j'avais déjà dit à ma mère au téléphone, je ne suis pas responsable, ce n'est pas de ma faute.
Exactement. Et, quel que soit le drame que l'on vit, on ne peut pas le faire porter à ses propres enfants. Jamais.
Et je sens bien, vous voyez, je suis venue, je lui ai fait un cadeau. Elle l'a mis dans un coin. Vous voyez, des petits gestes comme ça. Et il y a déjà 9 ans, il nous avait invités en vacances. Et à l'époque, j'avais reçu un recommandé avec accusé de réception, comme quoi il ne pouvait pas nous recevoir.
Ah, c'est curieux comme communication avec sa fille.
Ah oui, enfin, voilà, c'est... Voilà, c'est des fois je me dis si j'ai un comportement des fois excessif, et j'ai pas eu un exemple aussi très positif.
Il faut vraiment, Ida, que vous compreniez que de ce côté-là, il n'arrivera plus rien de positif. Vous le savez.
Non, je dois m'attendre à rien de non.
Et si jamais ça arrivait, tant mieux. Mais tant que vous attendrez désespérément une compensation de ce côté-là, vous vous ferez du mal. Le jour où vous, une fois de plus, quand on ne peut pas changer ce qui se passe, on peut changer la manière dont on se positionne par rapport à ce qui se passe. Et c'est ça que vous allez faire maintenant.
J'espère réussir parce que c'est difficile. Parce qu'à l'époque, j'avais espoir. Je me rappelle, je téléphonais à ma mère. Je lui ai dit, maman, si j'étais près de toi, tu me prendrais dans tes bras. Elle me dit, mais tu veux me culpabiliser? Si tu manques de tendresse, t'as qu'à en donner plus à tes enfants.
Elle ne pourra pas. Et elle ne pourra pas. C'est une femme qui ne peut pas faire plus que ce qu'elle a. Et ce qu'elle a dans son cœur est brisé.
Ouais, et ça, en plus, elle a été élevée par ses grands-parents, elle n'a même pas été élevée par sa maman.
Mais c'est son histoire de vie à elle, ce n'est pas à vous de porter ça. Ça fait trop longtemps que vous essayez à la fois de soigner cette blessure d'abandon et de rejet chez vous et de réparer des choses chez votre mère, et vous ne pouvez pas le faire. Il est vraiment temps de grandir maintenant et de laisser ça de côté et d'avancer pour vous et vos enfants.
Oui, et je m'aperçois que j'ai déjà pas été une bonne maman parce que quand ils étaient petits, je m'en occupais, tout ça. Mais quand arrivait le week-end, je me plongeais dans le sommeil, dans les cachets. Je voulais rien voir.
Ida, vous avez fait ce que vous avez pu avec tout ça. C'est déjà beaucoup. Hein. Et je pense que vous les aimez profondément, vos enfants. Et ça, c'est l'essentiel.
Oui, ça, c'est sûr. Mais voilà, on ne rattrape pas le temps passé. Et c'est vrai que j'ai un gros travail à faire. Mais Je me sens submergée, je ne sais pas comment faire
un
pour...
Un pas après l'autre, ça c'est le secret. On laisse le passé au passé, on ne commence pas à se faire des films catastrophes pour l'avenir, on reste dans le présent et on avance un pas après l'autre.
D'accord.
Hein, vous travaillez déjà avec l'hypnose sur la douleur et sur le stress, et c'est très bien. Vous pouvez demander à faire des séances, soit avec le même thérapeute, soit avec un autre, pour travailler sur cette distance émotionnelle-là. Pour faire à la fois le deuil de ça et le deuil d'une relation idéale que vous espérez avec vos parents depuis trop longtemps. Et vous savez ce qui est intéressant aussi, et moi je me rends compte avec plein de patients, on ne peut pas changer l'autre. Mais quand on change soi-même, quelquefois l'autre change. Et peut-être qu'en travaillant sur vous, j'en suis pas sûre évidemment, mais peut-être qu'en travaillant sur vous, en changeant cette distance que vous allez mettre entre vos parents et vous, inconsciemment ça va libérer votre mère de certaines choses et ça peut changer son comportement aussi, plus tard.
D'accord.
Si elle sent que vous n'êtes plus dans aucune attente, ça peut libérer un espace qui sera plus doux entre vous.
D'accord, je vous remercie de vos précieux conseils.
Prenez bien bien soin de vous, Ida.
Merci.
Et gardez
cette
belle énergie positive qui jusque-là vous a fait tenir debout et qui va vous donner des ailes pour l'avenir.
D'accord.
Je vous embrasse.
Merci Sabine. Merci moi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Et c'est Nathalie que j'accueille avec grand plaisir maintenant. Bonsoir à vous, Nathalie.
Bonsoir, Sabine. Merci de m'accueillir.
J'en suis ravie.
Voilà. Je vous appelle parce que c'est pour vous parler de ma petite fille. J'ai une petite fille qui a 7 ans, qui vit avec sa maman. Et donc, avec son papa, la maman, ils se sont séparés il y a 3 ans.
Vous êtes la maman de qui, vous ?
Je suis la maman de la maman. De
la
maman,
d'accord. Oui.
Voilà. Ils se sont séparés il y a 3 ans avec le papa. Et donc, au départ, tout s'est bien arrangé. Ils ont été voir un juge qui lui a permis de récupérer la petite le vendredi soir et de la ramener le dimanche. Donc, ça se passait très, très bien. Il était content. Elle était contente d'aller avec son papa. Lui aussi, il était content de récupérer sa fille. Ça se passait très, très bien. À partir du moment où il a refait sa vie, ça a été un peu plus compliqué. On sentait que la petite y allait un peu à reculons parce qu'elle pleurait, sa maman lui manquait, elle faisait des crises d'eczéma. Mmh. Et donc, comment dire? Donc, du coup, une fois, c'était les vacances scolaires, donc il avait la garde de la petite pendant 15 jours. Et donc, il n'a pas pu partir en vacances. Peut-être qu'il avait des problèmes financiers, donc il n'a pas pu partir avec elle. Et donc, il a laissé avec sa maman. Donc, il a posé la petite, il a récupéré la petite chez la maman le vendredi soir, à l'école le vendredi soir, l'a ramené directement chez sa maman. Et la petite est restée la semaine et il n'a pas été la voir, même pas le week-end, il n'appelait pas non plus. Et donc, la petite s'est sentie un peu délaissée et elle pleurait le soir. Donc, la mamie l'a appelé la maman en lui disant qu'elle pleurait. Donc, ma fille est partie carrément la chercher parce qu'elle était malheureuse. Et donc, du coup, à partir de là, eh bien, le papa ne s'est plus occupé de la petite. Donc, entre-temps, il a refait sa vie, il a eu des jumeaux.
C'est ce que j'allais vous demander, oui, ben oui.
Voilà, il a refait sa vie, il a eu des jumeaux. Et il a carrément oublié la petite. Et on sent, moi je l'ai ressenti déjà depuis un petit moment, qu'elle était un peu à fleur de peau. C'est une petite qui est très intelligente, qui travaille bien à l'école, qui a une vie sociale très développée avec ses copines. Mais par contre, on lui dira non pour quelque chose ou sa maman dira qu'elle part en week-end avec ses copines. Elle va pleurer, elle aura du mal à laisser sa maman, même pour venir avec moi. Et à un moment, il faut qu'elle demande, il faut qu'elle cherche à savoir ce que fait sa maman. Je sens qu'elle est de plus en plus accrochée à sa maman.
Mais elle a peur, a peur d'un double rejet là maintenant, évidemment.
Voilà. Et donc, du coup, quelquefois, elle demande à sa maman de laisser un message pour son papa. Elle laisse un message, le papa ne la rappelle pas. Alors, on ne sait pas s'il a changé de téléphone ou s'il reçoit les appels, mais en tout cas, il ne la rappelle pas. L'école lui envoie ses notes. Mmh. Il ne l'appelle même pas pour lui dire que c'est bien, qu'elle a bien travaillé, pour l'encourager. Donc, elle se sent rejetée.
Mmh.
Et donc, moi, sa maman a déjà essayé d'avoir une discussion avec le papa, qui ne réagit pas non plus, et la petite. Donc, je la sens triste à cause de ça.
Mais oui, bien sûr.
Alors, quelquefois, si je suis avec elle, elle va me dire, tiens, c'est une voiture comme mon papa. Elle va me parler de sa chambre quand elle était chez son papa. Mais franchement, je suis triste à cause de ça. Et je me suis dit, donc ce week-end, hier, ma fille m'a annoncé qu'elle a vu un pédopsie pour ça, pour ce problème-là pour la petite.
Oui, c'est une très bonne chose.
Et donc, moi, je voulais savoir, et je voulais avoir votre avis pour ça, je m'étais mise dans la tête d'écrire au papa. Parce que j'étais en très bon terme avec lui.
Mm-hmm.
J'aurais aimé lui expliquer les problèmes que rencontre la petite.
Alors, avant d'en arriver aux solutions, j'aimerais bien comprendre qui a initié le divorce et pour quelle raison déjà.
Mais en fait, ils vivaient ensemble. Et en fait, ils se sont séparés parce que ma fille, à un moment, ça n'a pas été parce qu'elle sentait qu'il lui mentait, qu'il lui cachait des choses du genre. Il payait pas certaines choses, il lui cachait parce qu'un jour elle est partie travailler plus tard, elle s'est rendue compte qu'il y a un huissier qui est venu parce que avant qu'ils se mettent ensemble, il avait un appart, et il avait laissé l'appart à sa sœur. Et du coup, sa sœur n'avait pas payé les loyers de l'appart alors qu'il n'avait pas fait changer le bail. Et donc, du coup, quand ma fille s'est rendue compte de tout ça, ça n'a plus été à ce moment-là, et puis c'était pratiquement...
Donc, c'est elle qui a demandé la séparation, en tout cas.
Oui, en quelque sorte.
Bon, est-ce que ça a été clairement expliqué à la petite ?
Mais à ce moment-là, il n'avait que 3 ans.
Et même à 3 ans, on peut comprendre.
Ah, je ne sais pas. Je pense. Ah oui, je pense qu'elle a dû. Ça, je peux pas vous l'assurer, mais c'est ma fille. Elle est très ouverte. Elle est très ouverte avec sa fille. Elle lui. Je pense qu'elle a dû. Que tous les deux, ils ont dû lui parler, lui dire.
D'accord.
Parce que au départ, ça se passait très très bien.
Donc ensuite, ce monsieur a vite refait sa vie, a eu des jumeaux. Aujourd'hui, les jumeaux ont quel âge et votre petite fille à quel âge?
Mais ils ont, je crois qu'ils ont 3 ans et ma petite fille, elle a 7 ans.
D'accord, donc il y a quand même 3 bonnes années qui sont passées depuis, presque 4.
Oui, maintenant. Oui, oui.
D'accord. Et au début, quand il a refait sa vie, est-ce que votre fille a rencontré sa nouvelle femme?
Ah non, 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 je pense pas, non, non.
Ça aurait été important parce que j'imagine que les week-ends où votre petite fille y allait... Elle vivait avec cette femme aussi, elle l'a rencontrée.
Mais oui, mais... parce que...
C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un lien intelligent qui se soit créé autour de la petite, quoi.
Mais elle aurait voulu, mais je ne pense pas que ça aurait été possible avec le papa.
Et quand
parce que c'est quelqu'un qui est un peu fermé, qui ne discute pas, donc...
Mais là, il voyait...
Voilà. Il a mis beaucoup de distance entre... Parce que ma fille, elle n'avait même pas son adresse, en fait.
Mais comment il faisait pour prendre la petite? Elle venait la chercher sans qu'elle...
Il venait la chercher à l'école.
Et sans que votre fille sache où elle était?
Oui, parce qu'ils se sont... Ils s'étaient entendus entre eux, ils s'appelaient quand même pour la petite. Hein. Et donc...
Enfin, mais là, est-ce qu'elle n'ait pas son adresse? Ça paraît quand même un peu violent. Hein.
Oui, mais je sais. Oui,
et
oui,
alors,
oui.
À partir de quel moment il ne l'a plus prise du tout?
Il ne l'a plus prise à partir du jour où... quand la petite a été en vacances pendant les 15 jours avec une mamie, avec sa mamie,
d'accord, mais est-ce que
la mamie paternelle,
est-ce que ça correspond
et qu'elle a appelé sa maman pour lui dire qu'elle a envie de l'avoir et qu'elle pleurait ce soir-là.
J'ai compris, mais est-ce que ça correspond au moment où il est devenu père à nouveau?
Ah oui, oui, il était déjà père, oui, tout à fait.
Il avait eu les bébés, en fait, des jumeaux.
Il avait eu les bébés, et ça, je peux comprendre qu'il était submergé par ce changement de sa vie, et que c'est un peu compliqué pour lui. Et puis, je pense que sa compagne n'était pas très, très, très gentille avec ma petite fille. Parce qu'elle a dit à sa maman qu'elle n'était pas très gentille avec elle.
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous du tout, là, Nathalie. Je ne peux pas comprendre ça. Quel que soit ce qui se passe, son rôle de père aurait été d'aller parler à sa fille. Est-ce que la petite a rencontré ses jumeaux?
Ah oui, bien sûr. Donc, si, mais elle vit. Quand le papa... aller la chercher le vendredi soir pour le week-end, elle était chez son papa, chez dans la famille de son papa avec les jumeaux. Elle commençait à s'habituer à son petit frère et sa petite sœur. Hein. Mmh.
Donc c'est pas
tout se passait bien. Ça s'est dégradé quand il a eu ses vacances et que il a carrément mis la petite chez la mamie.
Donc, c'est pas l'arrivée des bébés qui a changé la donne. C'est pas vrai, du coup?
Non, je pense pas. Je ne pense pas.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez l'une ou l'autre réussi à lui parler au téléphone depuis ou en vrai, depuis cette histoire de vacances, là?
Le papa?
Oui.
Ma fille, oui. Oui. Elle a eu plusieurs discussions avec lui. Et après, par rapport à la réaction de la petite quand elle revenait de week-end chez lui. Et donc, je pense qu'il n'a pas dû apprécier. Et puis, il a profité de l'occasion que comment dire, que ma fille ait récupéré la petite pendant les 15 jours de vacances. Et après, il a arrêté d'aller la chercher, c'est tout. Et par contre, il continue à lui verser la pension alimentaire, tout.
Concrètement, ça fait combien de temps qu'il n'a pas vu sa fille?
Eh bien, ça fait déjà... Là, elle est au CE1 quand elle est rentrée au CP, en fait.
Donc, ça fait presque 2 ans et demi.
Oui.
Ouais. Rien, aucune nouvelle à Noël, aucune nouvelle pour son anniversaire.
Rien du tout. Alors que la petite lui laisse des messages.
Qu'est-ce qu'elle espère, votre fille? Qu'est-ce qu'elle voudrait, elle, dans l'histoire?
Elle voudrait que au moins il lui donne un signe de vie, il l'appelle. Qu'il puisse pas la prendre parce que peut-être qu'il a peut-être des problèmes avec sa compagne par rapport à récupérer la petite le week-end. C'est pas grave pour elle.
Ça peut ressembler à ça, effectivement, une jalousie de l'autre côté féminine qui pourrait
un petit peu.
Mais ça n'excuse pas ce silence. On dit
non, ça n'excuse pas. Je sais. Justement, c'est pour ça que je vous appelle parce que ça me questionne et Parce que nous, enfin, ma fille, elle, j'ai discuté avec elle hier après-midi, elle m'a dit, moi, je suis prête, parce que je lui ai toujours dit que, elle me disait qu'elle a toujours dit à son ex-compagnon que si tu as des problèmes de garde, tu peux me dire, il n'y a pas de problème, on s'arrangera. Mmh. Même à la limite, passe-lui un coup de fil pour lui dire. Parce que la petite, je pense qu'elle a envie de savoir que son papa pense à elle. Que son papa ne l'a pas oublié.
Ah ben il est vital que cette situation ne dure pas pour l'avenir de la petite, ça c'est évident.
Mais voilà.
C'est évident. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que vous me disiez avoir envie de lui écrire, tout en me disant que vous n'avez pas son adresse.
Oui, mais j'ai trouvé l'adresse parce que en fait, comme il y a eu les notes scolaires, parce que vu qu'il a la garde aussi. De sa fille, donc l'école lui envoie les notes et elle m'avait, ma fille m'avait envoyé la photo des notes et j'ai récupéré l'adresse du papa.
Donc vous êtes sûre de l'adresse?
Eh bien justement, c'est plus l'adresse et du coup ma fille m'a donné une nouvelle adresse. Comment elle a eu cette adresse-là? C'est parce que j'ai une deuxième fille qui a et son mari, comme on en a discuté de l'histoire de la petite et son mari qui est resté en très bon terme avec le papa, savait où il habitait. Et donc, un dimanche après-midi, il a récupéré la petite et il a emmené la voir. Il a été chez le papa avec la petite.
D'accord.
Et donc, c'est lui qui connaît l'adresse et qui a donné l'adresse à ma fille, qui m'a transmis cette adresse-là hier soir. Et c'est pour ça, je me dis, est-ce que... Parce que vu que j'étais presque une petite maman pour elle parce que il m'écoutait bien et puis il était désolé quand ma fille a décidé de se séparer et donc bon on avait bien discuté. Moi je me demande si je lui dis de façon très diplomatique.
Voilà. C'est là que j'attendais un petit peu ça. Vous avez, parce que moi je trouve que l'intention et l'idée est très bonne. Vous avez un rôle à jouer. Oui. Vous avez une bonne distance parce que vous n'êtes pas non. Trop impliqué émotionnellement, ça n'est pas votre fille, c'est votre petite fille, donc ça c'est très bien.
Voilà.
Mais qu'est-ce que vous comptez lui dire en fait, concrètement?
Je comptais lui dire que la petite, ça se passe bien pour elle à l'école, mais je la sens à fleur de peau, très sensible, elle peut pleurer pour pas grand-chose, mmh. Et que, surtout que j'avais oublié de vous dire, elle est très accrochée à sa maman. Par exemple, sa maman peut partir en week-end avec des amis. Eh bien, elle a peur.
C'est logique, elle a un papa qui l'a abandonné. Elle a imaginé que sa maman rencontre un homme, elle va penser que ça va être le même scénario qui va
se passer. Oui, mais justement, sa maman a un compagnon, ils vivent ensemble, et elle aime beaucoup le compagnon parce que lui aussi, il forme une famille composée.
Mais attendez, Nathalie, je vous demandais ce que vous comptiez lui dire par lettre.
Je comptais lui dire le courrier que... A-t-il oublié la petite? A-t-il oublié parce que la petite, elle ne l'a pas oublié. Et que on sent qu'elle a besoin d'entendre son papa. Mmh. Alors, s'il pouvait, je voulais lui dire que je peux comprendre qu'il soit submergé avec ses petits, mais ne serait-ce que passer un coup de fil.
Alors attention, ça c'est de l'interprétation. Vous n'en savez rien en réalité, Nathalie.
Oui, voilà. Donc, vaut mieux pas que je lui dise
non,
ça.
Non, c'est
d'accord.
Pas forcément utile. Évitez d'interpréter ce que vous ne savez pas de manière
d'accord.
sûre. Évitez okay. effectivement toute culpabilité, toutes les phrases qui commencent par tu. Tu
oui.
devrais, tu aurais dû, tu pourrais, etc. Par contre,
d'accord.
lui faire part de la souffrance de la petite, de sa fragilité, de sa peur, et lui dire qu'elle a vraiment besoin d'avoir un père, même si c'est juste par téléphone, ça me paraît une très très bonne initiative.
Voilà, d'accord.
Vraiment.
Eh bien, d'accord. Je vous remercie.
Hein, oui. Vraiment, mais en gardant toujours cette parce
oui.
que cette diplomatie-là dont vous faites part ce soir, ce recul en disant que voilà, vous n'êtes pas là pour accuser qui que ce soit.
Ah non, pas
mais,
du tout.
Mais pour mettre un petit warning en disant attention, il y a une petite fille là qui va pas bien.
Oui.
Et même si tu ne reviens pas forcément comme avant, au moins sois présent pour elle, qu'elle sache que tu es là et que tu l'aimes, elle existe cette petite fille. Quoi.
Voilà. Hein. D'accord.
Rien
et
que ça.
Et vous me conforter dans ma décision.
Tout à fait.
Parce que effectivement, je voulais juste me concentrer sur la petite et j'avais pensé rajouter cette histoire. S'il est peut-être, vous avez raison de me reprendre en me disant de ne pas interpréter les choses. Mmh. Donc je vais juste parler de la petite parce que quelquefois quand je suis avec elle, elle va avoir une voiture. Elle va me dire, ah mais tiens, c'est comme la voiture de
Nathalie,
mon papa.
Nathalie, j'ai bien compris. Il va falloir qu'on se quitte. L'émission se termine pour l'instant, pour la première heure. Faites ça
d'accord.
et faites ça avec ce bon état d'esprit que vous avez là. Plus vous serez positif,
d'accord.
plus il y a des choses positives qui vont arriver derrière pour la petite.
Très bien. Eh bien, je vous remercie.
Et parlez-lui aussi à votre petite fille. Dites-lui les choses telles qu'elles sont aussi. Souvent, c'est important.
Oui, mais j'ai peur de lui parler parce que d'entamer la conversation. En général, je préfère attendre. Je voulais attendre qu'elle m'en parle, elle.
Alors, envoyez ce courrier et attendez de voir comment ça se passe déjà. Je vous embrasse. Merci de votre appel, Nathalie.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Antenne d'Europe 1, nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez continuer à appeler pour prendre la parole tout au long de l'émission. Prendre la parole pour parler de vous, de ce qui vous préoccupe ou simplement pour réagir à un témoignage que vous avez entendu et qui vous a touché. Un seul numéro de téléphone à composer, le 3921. Hassan et Oscar vous accueillent, vous attendent au standard d'Europe 1 et vous guideront ensuite jusqu'à moi. Vous pouvez aussi intervenir par SMS en tapant le 739-21 et en commençant par le mot « nuit ». Vos SMS pour poser une question à quelqu'un qui intervient, pour apporter simplement un soutien ou une idée. Et c'est aussi par SMS, bien sûr, que vous pouvez demander à entrer en contact hors antenne avec quelqu'un qui vous a particulièrement touché. Enfin, dernier moyen pour nous joindre, les mails. Écrivez-nous à l'adresse suivante, libreantenne, tout attaché, libreantenne@europe1.fr. Vous le savez, la Libre Antenne, c'est une grande famille et cette famille, c'est la vôtre. Alors soyez-y les bienvenus.
22h30, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est Aurélie que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous, Aurélie.
Bonsoir, Sabine.
Alors, quelle est la raison de votre appel ce soir ?
Je vous appelle parce que cette semaine, je devais passer au tribunal pour faire un appel contre un placement. En fait, ma fille de 4 ans, que j'ai toujours élevée seule, qui allait très bien, qui était en très bonne santé, m'a été retirée intégralement depuis juillet 2018. J'avais fait appel de cette décision et on devait passer au tribunal donc un an et demi plus tard. Et quand on est passé au tribunal, les 2 jours avant le tribunal, c'est là que mon avocate m'a annoncé que de toute façon, passer au tribunal, ça sera sans objet, au motif que l'appel arrive trop tard.
Pour quelle raison donc, est-ce qu'on vous l'a retiré, la petite ?
Alors, je vais vous dire dans quel contexte. J'ai 2 filles. J'ai une qui est née en 2005, d'une première union, et une autre qui est née en 2014. Donc c'est avec l'autre qui est née en 2014 qu'on fait des problèmes. Mmh. Le père de celle qui est née en 2014, j'étais dans un contexte, il nous faisait des violences en fait physiques, psychologiques, des choses comme ça. J'ai beaucoup supporté, beaucoup pardonné. J'ai même quelque part mis en danger la plus grande de mes filles. C'est pas en essayant quand même de construire une relation avec cet homme-là. Et ma fille, après, j'ai pu la protéger bien comme il faut. Et j'ai pu mettre la distance avec lui. Sauf qu'entre-temps, j'avais eu une autre enfant. L'autre enfant, il avait dit qu'on habiterait ensemble quand on aurait un enfant commun. Il avait dit qu'il ferait des efforts quand on aurait l'enfant commun. Moi, j'étais enceinte, et quand j'étais enceinte, il ne venait pas habiter avec moi. « Oh non, mais je serais trop triste !» Il me disait « Si jamais tu fais une fausse couche, ça sera trop dur à vivre. » Non, alors donc, il fallait tout que j'assume toute seule. Et la grande, elle l'amenait à l'école, les sacs, les courses, le ménage, tout, toute seule, financièrement, tout, toute seule. J'ai dit « Mais attends, là, c'est plus possible. » Quand j'étais enceinte de 6 mois, j'ai essayé de lui mettre les limites. J'ai dit « C'est plus possible. » Tu m'avais dit « Quand je serai enceinte, là, je suis enceinte de 6 mois. Maintenant, c'est sûr que l'enfant va naître. Il n'y a plus de risque de fausse couche. » Et c'est là que c'est justement enceinte de 6 mois que pour la première fois, il m'a tapé dessus.
Est-ce qu'il voulait cet enfant ou pas ?
Oui, c'était oui. Ça qu'il voulait. Oui.
Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé là, quand il a dit la mention ?
Une vingtaine de coups de poing à l'arrière de la tête. Ça a fait une entorse des cervicales. j'ai réussi à m'enfuir. J'ai cru qu'il allait me tuer ce jour-là. Juste, je lui demandais juste que quand est-ce qu'on habite ensemble. Juste à cette question-là. Ça a été oui. Excusez-moi.
Bon, je vous en prie, prenez le temps de respirer, Aurélie. Ça va aller, on est là pour vous écouter, vous soutenir.
Oui. Hein. Oui.
Je vous fais une petite place à côté de moi dans ce studio.
Merci. Donc, j'ai réussi à sortir. J'ai le lendemain vu des médecins. Tous m'ont dit, mais portez plainte. Alors d'abord, j'avais un rendez-vous chez la gynéco. Que c'était prévu longtemps. Et elle voyait que j'allais pas bien, que j'étais toute tordue sur moi-même. Mmh. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Elle a insisté. C'est là que j'ai expliqué. Mmh. Et je savais qu'elle allait me dire quittez-le. Moi, je voulais pas. J'avais déjà un enfant tout seul. Je voulais faire une famille. Donc, elle me dit porter plainte contre lui. Je dis, je peux pas porter plainte contre lui. J'élève déjà seul un enfant. Il va s'arranger. C'est juste comme ça. Elle me dit, faites les radios. Je vous envoie chez votre généraliste. Il vous fera certificat médical, coups et blessures. Mmh. Tout ça, je voulais pas, mais ça s'est fait quand même. Je suis allée voir les radios. Effectivement, il y avait une entorse des cervicales, donc il avait cogné vraiment très fort. Je me suis retrouvée avec une civière, pas une civière, comment le collier autour du cou, si, je sais plus comment ça s'appelle. Minerve autour du cou. Après, je suis allée voir le médecin généraliste qui m'a fait certificat médical. Les jours ont passé, les semaines ont passé, j'ai pas porté plainte. J'ai continué à vouloir refaire cette relation avec lui. Ça s'est recalmé, de nouveau, ça avait l'air d'aller bien. Toujours, on n'habitait pas ensemble. Je le voyais que quelques heures, soit les mardis, soit les samedis. Voilà. Et toujours sur le même argument, tu risques de faire une fausse couche, je vais être trop triste si tu fais la fausse couche. Voilà. Est arrivé l'enfant. J'ai dû me débrouiller toute seule, il venait pas. Pour l'accouchement, je veux dire. Oui. Il est arrivé peut-être une heure avant que l'enfant naisse.
Oui, ça me surprend pas vraiment.
J'avais peur, j'ai cru que j'allais aller à pied jusqu'à la maternité. C'était quand même une heure du matin, quelque chose comme ça. Il a fini par arriver. Les valises, il voulait pas les porter, donc j'étais là avec les contractions, sur le point de perdre les os. Fallait que je porte moi-même les valises encore.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse une courte pause avec un peu de musique, Aurélie, le temps que vous preniez un verre d'eau, peut-être?
Oui.
Hein, on fait ça?
Oui, oui.
Prenez le temps, je vous récupère dans un tout petit instant.
Oui.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Aurélie, est-ce que vous êtes bien là?
Oui, oui. Je vais essayer de résumer parce que c'est tellement long. Après un an et demi de violence conjugale, donc en octobre 2015, la petite, elle avait 18 mois. Il a commencé à me taper quand j'étais enceinte.
Alors attendez, vous avez quand même sauté un chapitre important. Est-ce que vous vous êtes installés ensemble après la naissance de l'enfant?
Jamais. Donc, il n'a jamais eu aucune vie commune. Oui, après la naissance de l'enfant, ils n'en habitaient toujours pas ensemble. Il me faisait venir uniquement le samedi 2h, et alors dans des conditions très bizarres, donc il fallait que je lui achète de la nourriture, que je fasse le ménage chez lui, et que je fais la cuisine, donc ça durait 2-3 heures comme ça, que lui s'enferme soit dans la chambre, soit dans la salle de bain, fermé à clé, avec la petite, donc bébé jusqu'à ses 18 mois. Et moi, je devais... Parce qu'il disait, maintenant, il faut que tu prouves que tu es une bonne femme d'intérieur avant qu'on se quitte ensemble.
Mais Aurélie, pourquoi vous avez accepté ça? Enfin, c'est juste absolument inimaginable. Pourquoi vous avez laissé faire ça?
Ce qu'il y a, c'est que moi, je voulais faire une famille.
Mais pas dans ces conditions.
Et qu'il faisait tellement de promesses que ça va s'arranger, qu'on ferait une famille. Et ça venait jamais.
Donc après, qu'est-ce qui s'est passé après?
euh, c'est en octobre 2015 qu'il m'a retapé. Donc, il y a eu plusieurs phases de violence comme ça, que le peu qu'on se voyait, il s'énervait le moindre truc. Il trouvait que je fais pas assez vite le ménage, ou je fais trop de bruit en faisant la vaisselle. Et toujours, il revient, il donne des coups de poing, et moi, je me mets en boule et il tape comme ça sur mon dos, ma tête. Et c'est en octobre 2015 que j'ai eu un déclic et que j'ai dit plus jamais. Voici plus jamais. Cette fois-là, quand il m'a tatoué, ça a fait comme une espèce de une grande vague qui arrive et c'est tout revenu, toutes les horreurs que j'ai supportées. Parce que quand on vit un petit truc difficile et puis qu'après il redevient gentil, on oublie. Et là, c'est tous les trucs difficiles qui sont tout revenus d'un coup. Tout le jeu, mais quelles horreurs j'ai supportées, mais comment j'ai tapé. Plus j'ai tapé, plus je me rappelais toutes les horreurs. J'ai pris mes deux filles sous le bras. Plus, il y avait en plus une copine de ma grande fille. J'ai pris tout le monde. J'ai dit, les filles, on s'en va, on se sauve d'ici. J'ai fait monter tout le monde dans la Clio. On est parti. Ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai cliqué sur Internet pour déconnecter tous les téléphones. Plus qu'ils puissent l'appeler, je l'ai mis en indésirable de partout. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec ce monsieur. Ça n'a pas mis 10 jours avant qu'il fasse une attaque en référé auprès du JAF. Même pas 10 jours après que j'ai coupé tous les téléphones. Il a fait aucune tentative de renouer les liens pacifiquement. Aucune lettre, aucun message sur le répondeur. Parce qu'il pouvait quand même laisser des messages. Aucun email qu'il pouvait quand même envoyer des emails.
Ben non, il avait perdu le contrôle. Donc c'était évident qu'il allait redevenir encore plus violent.
Voilà. Et alors maintenant qu'il me tape plus dessus physiquement, c'est juridiquement, administrativement et tout ça qu'il me tape dessus. Il continue les violences à travers les administrations.
Qu'est-ce qu'il réclame?
Alors, il a réclamé de récupérer l'enfant, tout ça. Donc, moi, j'ai gardé l'enfant avec moi. C'est à partir de janvier 2017 qu'il a commencé à l'avoir. Et à partir de l'été 2017 qu'elle a commencé à dormir chez lui.
Est-ce que vous avez su quand même qu'est-ce qu'il faisait avec la petite quand il s'enfermait?
J'ai jamais pu savoir. Sa réponse était « c'est mon secret à ma fille, à moi ». J'avais pu savoir.
Oui, mais c'est grave, hein. Vous savez que c'est grave, ça. Donc Aurélie, je suis désolée, mais c'est très compliqué là, d'être à l'antenne si vous n'êtes pas en capacité de me parler. Est-ce que vous pensez que vous allez tenir le coup là pour qu'on se parle?
Oui, bon. Excusez-moi.
Alors vous en êtes où là concrètement aujourd'hui?
Ah, d'accord. Donc la petite elle dort chez lui et elle revient blessée à chaque fois. J'ai fait le signalement à la police, j'ai fait des photos de toutes les blessures qu'elle a. Elle en a sur toutes les parties du corps. Elle a au niveau de la vulve, c'est irrité. Elle a au niveau du menton, elle a des scarifications sous les bras, dans le dos, des choses horribles. Donc j'amène au médecin, les médecins me disent « mais nous on fait pas les certificats, faut aller aux urgences pédiatriques. Les urgences pédiatriques, nous on fait pas de certificats. » Faut aller à la police. La police me dit, nous, faut demander au médecin légiste s'il veut bien recevoir votre enfant ou pas. Donc moi, de mon côté, ce que je fais, vu qu'aucun médecin constate ça, je fais des photos.
J'ai jamais entendu ça. Mais évidemment, un médecin là pour constater ça, enfin, c'est aberrant.
Oui, oui. Aucun médecin pour constater. J'ai que des photos comme preuve et mes passages à la police. Et la police interroge l'enfant, je vous dis le genre de blessure qu'elle a quand même, des irritations sur la vulve, des scarifications sous les bras. Et la police met la pression à la petite. Donc c'est tout filmé. Hein. S'il y a des enquêteurs qui veulent vraiment faire une enquête, ils retrouvent la vidéo, c'est filmé en salle Mélanie. Ils mettent la pression à la petite. À la fin, la petite, elle dit « Ah, c'est parce que j'aime jouer à me jeter par terre. » Selon la police, ma fille aurait dit ça. Donc, soi-disant, ma fille, elle dit « j'aime jouer à me jeter par terre chez maman » et elle se ferait des scarifications sous les bras et des irritations de la vulve en s'amusant à se jeter par terre chez maman.
Ça, c'est probablement son père qui lui a dit dire ça, j'imagine.
Ben, certainement, mais en plus, on ne fait pas ce genre de blessure en se jetant par terre, c'est pas logique, la police retient ça. Ben, votre fille, on ne vous l'emmène pas voir un légiste puisqu'elle a dit que c'est grave parce qu'elle aime bien se jeter par terre chez vous.
C'est n'importe quoi là, cette histoire, Aurélie. C'est impossible que vous n'arriviez pas à porter plainte contre cet homme et qu'il ne soit pas déjà arrêté.
Et je vous jure, aucune place ils ont voulu prendre.
Vous avez, pris un avocat?
Oui, même l'avocat, une fois, elle m'a conseillé. Moi, si vous m'aviez parlé de votre fille, parce qu'après, c'est allé plus loin, la petite l'a dénoncée comme pédophile. Après, elle a réussi à parler. L'avocate me dit, elle me dit, si vous en aviez parlé, moi, je vous aurais dit jamais porter plainte. Parce que justement, quand est-ce que j'ai perdu ma fille, C'est quand elle l'a dénoncé comme pédophile, ils l'ont placé à temps plein chez lui. Ça a été horrible.
Attendez, ils ont... je ne comprends pas. Il a été reconnu pédophile et on a placé votre fille chez lui.
Ils n'ont pas reconnu, justement. La petite le dénonce comme pédophile. Je l'ai fait manquer l'école la journée entière, je l'ai amenée à la police. La police l'a même pas envoyée chez le médecin légiste alors qu'elle parlait. Elle racontait tous les détails. Il se met dans une bassine, son zizi flotte, il y a des jouets autour. Il dit « Viens jouer avec mes... » Oh là là. Des horreurs, des horreurs. Après, en allant à la police, je pense qu'ils lui ont posé des questions plus précises parce qu'en rentrant de la police, elle me disait, maman, je veux te dire quelque chose, c'est que quand je lui touche le zizi, son visage, il fait comme ça, j'ai oublié de te dire. Et elle me décrit le faciès 4 ans, elle me décrit le faciès de son père quand on lui touche le sexe. Elle fait la tête, comme ça.
Ah oui, c'est clair depuis le début, hein, cette histoire, que oui. ce type abuse d'elle depuis le tout début.
Oui, oui.
Alors du coup, concrètement, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Alors concrètement, je vous explique. Donc, juillet, c'est là qu'on m'a retiré la petite. Moi, j'ai fait un malaise, je suis tombée dans les pommes. Excusez-moi.
Moi, je comprends, Aurélie, mais vous voyez, c'est les limites de l'exercice de la libre antenne. C'est très, très compliqué sur un sujet aussi douloureux d'arriver à se parler en direct. Je comprends que pour vous, ça soit très difficile. Malheureusement, ça l'est pour moi aussi, parce que j'ai du mal à vous aider dans un contexte comme ça, quoi.
Oui.
Je ne peux même pas vous serrer dans mes bras, je ne peux même pas vous apporter un peu de réconfort, c'est compliqué comme ça. Essayez de respirer un petit peu quand même, qu'on puisse se parler, que vous alliez au bout de l'histoire, que j'arrive à comprendre. Oui. Aujourd'hui, la petite, elle est où?
Elle est chez son père à temps plein,
Mais c'est aberrant.
Depuis été 2018, oui. Et pendant 5 mois, donc je vous explique. Pendant 5 mois, je ne l'ai pas vue, de juillet jusqu'à novembre. Et là, il a continué ses histoires de se promener nu devant elle et tout ça. Comment je le sais? Parce que la première chose... maintenant, je la vois plus qu'en lieu médiatisé, ma fille. Comme une criminelle. À cause que je l'ai amenée à la police pour qu'elle fasse son dépôt de plainte. On a dit, elle doit être en danger psychique pour qu'elle raconte des choses méchantes comme ça de son papa. Le père a même pas été convoqué à la police. Ils ont convoqué ma mère et mon autre fille à la police pour enquêter si on l'a forcée à raconter à ça. Je vous jure, quelle horreur. Même pas, ils ont fait voir la médecin légiste, même pas un expert psychologue pour la petite, rien. Et il y a une éducatrice du CODAS, donc niveau CAP petite enfance, qui dit à la juge, je pense qu'elle doit être en danger psychique, on retient danger psychique. Et hop, diagnostic médical posé en audience par une CAP petite enfance, danger psychique, on retient danger psychique, et on retire l'enfant à la mère, et on la place à temps plein chez le père sans faire aucune enquête chez le père. Je vous jure.
Ça paraît complètement aberrant, cette histoire. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que vous n'avez pas une avocate qui semble vous défendre dans cette histoire.
Personne ne veut me défendre. Si vous saviez, c'est au moins la 5e avocate que j'ai.
La 5e?
Oui, et tous, ils disent laissez tomber, tous. Et celle-là, c'est la moins pire de tous. Je ne veux même pas la perdre parce que franchement, c'est la moins pire de tous que j'ai eu.
Est-ce que vous faites aider par une thérapeute? Parce que vous êtes quand même en grande détresse, là.
Et je pense que ils m'ont collé une obligation de soins, je vais vous dire, une thérapeute, j'en vois une. Figurez-vous qu'on a fait expertise psychiatrique au tribunal. Oui, monsieur est schizophrène. Il a une AH motif schizophrénie. Donc ça, c'est reconnu, c'est officiel. L'expert psychiatre du tribunal nous expertise tous les deux. Conclusion de l'expertise chez monsieur. Il y a certainement une problématique psychologique chez monsieur. Conclusion de l'expert chez madame. Il n'y a aucune pathologie contre-indiquant la parentalité chez madame. Voilà les deux conclusions. À qui est-ce qu'on a collé une obligation de soins? Parce que j'ai pas fait représentation d'enfant en débutant que c'était pas sécurisé avec le CODAS. Je faisais pas passation d'enfant, donc j'ai fait 6 mois de non-représentation d'enfant, c'est-à-dire 42 heures. Pour 42 heures de non-représentation d'enfant sur une période de 6 mois, j'ai écopé de 2 ans de prison. Non, pardon. 6 mois avec sursis pendant 2 ans. Mais 6 mois avec sursis. Ah
oui. Là, je vous parlais de thérapie, Aurélie, parce que en dehors même de tout ce qui se passe maintenant, dans votre histoire, il y a quand même des failles et une grande souffrance, parce qu'avoir accepté d'être traité comme ça par un type dès le début de la grossesse, c'était juste qu'il y avait un gros problème quand même chez vous. Il y a quelque chose à travailler de vos blessures qui n'ont pas été soignées là aussi. La thérapie, il ne faut pas la prendre comme une punition. La thérapie, c'est pour vous aider à guérir ça déjà à la base, parce que comprendre pourquoi vous êtes allé vous mettre avec un homme comme ça et comment vous avez pu accepter dès le départ ces promesses complètement bidons. On ne dit pas à une femme « je vivrai avec toi quand je serai sûre que tu ne feras pas de fausse couche ». C'est une aberration totale. Donc si vous avez accepté tout ça, c'est déjà parce qu'à la base, il y avait une grande, grande blessure chez vous. Un besoin désespéré d'être aimé.
Je croyais ce qu'il me disait. Moi, je ne croyais pas que c'était un menteur.
Oui, enfin, c'est tellement énorme. Au bout d'un moment, c'est tellement énorme tout ce qu'il vous a dit. Je pense que si vous avez accepté tout ça, c'est parce que vous êtes vous-même extrêmement blessée et en recherche d'amour désespérément. Comme vous disiez, vous vouliez absolument construire une famille, mais pas dans ces conditions-là. On ne construit pas avec un destructeur.
Il ne se présentait pas comme un destructeur.
Hein. Oh bah...
Il disait qu'on va construire quelque chose.
Hein. Oui, avec des paroles. Concrètement, c'était l'inverse. Donc ne prenez pas la thérapie comme une punition pour vous, mais comme au contraire l'occasion de réparer ces blessures.
Non, je suis pas malade et je suis pas blessée. La preuve, je suis plus dans cette situation. J'ai supporté jusqu'à temps que je constate que c'est insupportable, jusqu'à temps que je constate qu'il était menteur. Et quand j'ai constaté qu'il était menteur, je suis équilibrée psychiatrique. Je suis partie quand j'ai constaté. En octobre 2015, je suis partie. Bon, voilà, il m'a fallu un an et demi, mais j'ai constaté. Je lui ai donné un an et demi de chance, c'est tout.
Mais toute la manière dont les choses se passent depuis, c'est que c'est complètement un enchaînement de choses qui paraissent quand même aberrantes. 5 avocats, il n'y en a pas un qui a réussi à prendre votre défense mieux que ça.
Oui. C'est horrible.
Alors on a Nadège qui nous envoie un petit SMS pour vous soutenir, qui dit qu'elle a eu les mêmes soucis et qu'elle aimerait vous aider en rentrant en contact avec vous. Donc si vous le permettez, on vous donnera les coordonnées de Nadège après.
Oh oui, vous pouvez donner mes coordonnées à qui vous voulez. Vraiment, je cherche des contacts, des personnes un peu dans la même situation. Je recherche.
Et quelqu'un nous dit, je lui conseille à Aurélie de contacter Élise Lucet, la journaliste qui a enquêté sur la pédophilie et qui pourra sûrement mettre Aurélie en contact avec des familles qui ont dû fuir pour protéger leur enfant d'un père pédophile qui en avait la garde.
Ah bon?
Ouais.
Je suis même pas au courant.
Cherchez des informations sur Élise Lucet. Vous trouvez en tapant sur Internet, je pense que vous aurez des contacts pour récupérer...
Oui.
Les coordonnées d'Élise Lucet, qui effectivement a fait une grande enquête récemment sur la pédophilie et sur toutes ces histoires-là.
Ah oui, hein? D'accord.
Ça serait important.
Oui.
Et puis peut-être des groupes de parole. Demandez à des médecins autour de vous, à votre médecin généraliste, s'il y a des groupes de parole de gens qui sont dans les mêmes situations.
Oui, j'ai trouvé un groupe de parole.
Ah, ça c'est important.
De personnes. Oui, j'ai trouvé ça, oui.
Et vous y êtes allée?
Oui, je les vois depuis la séparation, depuis que j'ai vu les blessures. Donc je sais plus, ça fait combien de temps, peut-être depuis 2017, quelque chose comme ça, 2017-2018. Je vais voir, ça s'appelle groupe de parole de proches, SOS Inceste pour vivre.
D'accord.
Je vais là-bas et si ça va, ils sont sérieux. Au moins, on voit qu'on n'est pas seul, quoi. Voilà, c'est des galères pour tout le monde, hein. C'est une horreur. Il y a une omerta en France sur la pédophilie, c'est une horreur. Je vois, à l'association, c'est pareil. Hein. Excusez-moi.
On a plein de messages de soutien pour vous.
Oh.
Quelqu'un qui nous dit « Cet homme est à mettre sous les verrous, il faut prendre contact avec des associations absolument, vous ne pouvez pas rester seul comme ça. » Dans quelle région habitez-vous d'ailleurs? Beaucoup de gens qui souhaitent vous aider demandent où vous habitez.
Dans l'Isère, à Grenoble.
Dans l'Isère, d'accord. Bah, écoutez, si on a des auditeurs, des auditrices même qui sont près de vous et qui peuvent vous tendre la main, apporter un soutien, un conseil, un nom d'association, on est preneuse hein, ce soir de tout ça.
Oh oui, moi je veux.
Donc par mail, par SMS, c'est 73921 en commençant par le mot nuit. Vous mettez bien votre nom, votre téléphone et on transmettra à Aurélie au fil de la soirée tous ces contacts-là. Hein.
S'il vous plaît, merci.
Et je vous souhaite beaucoup de courage pour arriver à continuer ce combat, garder la tête haute.
Oui.
Réparez-vous, vous, d'abord, et ensuite vous pourrez réparer la petite.
Oui.
Et la sortir de là.
Oui. Oui.
D'accord?
Oui.
Et je vous promets, Aurélie, qu'on va garder votre téléphone là ce soir, et même peut-être encore 2-3 jours, si vous le permettez, pour vous transmettre, je pense, tous les contacts assez nombreux qui sont en train d'arriver.
Oh, c'est gentil, Sabine. D'accord. Merci beaucoup. Ah oui, je veux bien, merci.
Je vous embrasse très très fort.
Merci Samy, je vous embrasse aussi. Merci aux auditeurs, merci beaucoup. Au revoir, merci.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et avant d'accueillir Karine, je voudrais vous remercier car vous avez été très très nombreux à envoyer des SMS de soutien et à laisser vos coordonnées pour Aurélie. Sachez qu'Assane est en train de lui transmettre tous vos numéros de téléphone. Merci, merci pour elle. Bonsoir à vous Karine.
Bonsoir Sabine, je vous remercie de me prendre à l'antenne.
Avec plaisir.
Je suis une auditrice de nombreuses années de la Libre Antenne. J'espère que je vais être concise. Par quoi commencer? J'ai un long passé de dépression.
Oui, ça a commencé à quel âge la première?
Oh, je pense que j'ai été toujours une enfant très angoissée, mais vous savez, je suis née en 1950, à l'époque, on parlait pas psy. J'ai perdu ma maman à l'âge de 15 ans d'un cancer, en très peu de temps. Et depuis, je suis terrorisée, mais terrorisée par cette maladie. Ma maman est décédée, j'avais 15 ans. Eh bien, je dis toujours que j'en avais 13, parce qu'elle a tenu 2 ans. Et pour moi, je l'ai perdue à 13 ans, parce que c'était plus la maman que je connaissais. Elle était sans arrêt à l'hôpital.
Oui, bien sûr.
À l'époque, elle n'a rien eu, hein, ni chimio, ni rien du tout. Elle est décédée à 45 ans, et tant que le cœur a tenu, ça a été l'horreur. Mon papa était militaire, il n'y avait pas beaucoup de... On ne communiquait pas, chacun était dans son chagrin. J'avais 2 sœurs aînées. On n'en parlait pas non plus. Quand j'allais la voir à l'hôpital, une fois, elle m'avait demandé de lui apporter un hebdomadaire. Et alors, j'étais à côté d'elle, elle ouvre l'hebdomadaire. Et alors là, sur une double page, il parlait du cancer. Mais j'étais... pour moi, c'est la terreur. J'ai fait une grave dépression à 20 ans. J'ai été hospitalisée avec des électronarcoses. Et le médecin avait expliqué à mon père qu'une partie de moi n'avait pas grandi.
Mais oui, bien sûr.
Et toujours maintenant, hein, dès que j'ai quelque chose de très... qui me touche dans mon émotivité, dans ma sensibilité, je me réfugie dans ma petite enfance.
Vous vous mettez en boule, oui.
Pardon.
Vous vous mettez en boule, à l'intérieur.
Complètement.
Ben oui.
Je me suis mariée très jeune. Déjà, pour mes fiançailles, j'ai fait une dépression. Pour le mariage, je me suis mariée, mais c'était... Tout le monde avait un peu peur que je dise non. Un mois après mon mariage, j'ai attendu mon fils. Je ne voulais pas être maman, je ne pouvais pas être maman. J'étais une petite fille. Vous voyez, dès que j'ai quelque chose de...
Une émotion trop importante, vous n'arrivez pas à la digérer, à l'assumer.
Non, je me réfugie dans ma petite enfance et je ne pouvais pas avoir de bébé puisque j'étais une petite fille. Petite fille, elle n'a pas de bébé. Ça s'est passé, mais alors ça a été tempête sous un crâne. Et après, j'étais très très heureuse. C'est la plus belle chose que j'ai connue d'avoir un enfant. Mon fils a eu lui-même un petit bébé. Je suis un petit bébé qui est né en province. Je suis allée le voir. Moi, j'habite la région parisienne. Eh bien, j'ai pas pu prendre ce petit bébé. J'étais folle de joie d'être grand-mère. Je n'ai pas pu prendre ce bébé dans mes bras parce que de le voir enfin né, pour moi, il était mortel.
Mais oui.
Vous voyez, ça prenait des proportions et je suis terrorisée par... J'ai vraiment angoissé mon fils avec cette maladie parce qu'il a énormément de grains de beauté. Quand il était petit, j'étais sans arrêt chez le médecin, je le voyais grossir à vue d'œil. Un médecin m'a dit un jour, mais soignez-vous, vous allez le traumatiser à vie. Et j'ai un fils qui est très angoissé, qui s'en est bien sorti parce qu'il a une très bonne situation et il va de l'avant, il bosse comme un dingue et je pense que c'est sa façon un petit peu de se courir après. Mais j'ai angoissé mon fils. Et alors, c'est très paradoxal parce que je me suis occupée de personnes âgées pour... j'ai pas une grosse retraite, donc pour un petit peu améliorer l'ordinaire, j'ai été dame de compagnie, des gens qui finissaient par être très malades. Je les ai accompagnés jusqu'au bout, je les ai soignés jusqu'au bout. 2 de mes amies me sont tombées dans les bras quand elles ont eu elles-mêmes un cancer. Elles sont parties toutes les deux. Je fais face, je les accompagnais en chimio. Je faisais tout ce que je pouvais. Elles m'appelaient à toute heure du jour, pas de la nuit, mais presque. Je suis solide. Le papa de mon fils, j'étais divorcée depuis 35 ans. Le papa de mon fils m'est tombé dans les bras quand il a appris qu'il avait lui-même un cancer du poumon très grave. Il a habité un an et demi chez moi. Nous étions divorcés depuis 35 ans.
Est-ce que pour vous, ce n'est pas une façon de une sorte de réparation? Je n'ai pas pu sauver maman, alors finalement, je suis là pour la terre entière.
C'est quelquefois ce que je me dis. Je n'ai pas pu être auprès d'elle parce que... parce qu'on n'en parlait pas. Hein. D'abord, moi, je croyais que ma maman, mon papa nous avait dit que maman avait un fibrome. Je pense que ma sœur, qui avait 18 ans, j'en suis bien sûre, ma sœur qui avait 18 ans le savait, mais on ne prononçait pas le mot. Le mot me fait peur. Et le problème, c'est que je ne me fais... Mais vous avez raison, j'ai souvent pensé que j'ai fait pour les autres ce que je ne pouvais pas, ce que je n'ai pas pu faire à cause de mon âge et de ma fragilité pour ma maman. Mais je ne sais pas si vous connaissez le médium qui s'appelle Pierre Jonas.
Non.
Non, vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un qui connaît mon fils. Et il y a quelques années, j'ai de gros problèmes de dos. Il est aussi magnétiseur. Et mon fils faisait une soirée chez lui avec des amis et ce monsieur qui est venu. Et il m'avait dit, maman, viens, il est magnétiseur, il va peut-être voir un petit peu t'arranger ton dos et tout ça. Mais je ne savais pas que c'était un médium, parce que moi, ce genre de choses, ça me fait très peur. Hein. Mm-hmm. Et donc, je suis allée chez mon fils, ce monsieur arrive. Bon, tout le monde se regardait, qui c'est qui passe en premier. Bon, je me lève, on va dans la chambre de mon fils. Il commence avec sa main à partir de ma tête. Il descend vers l'oreille droite, et il me dit, vous avez un souci, vous allez être opéré dans quelques jours. Nous étions un vendredi, je rentre en clinique le dimanche pour une greffe de tympan. Déjà, je me suis dit, oh là là, alors après il est descendu, il a vu mes gros problèmes de colonne vertébrale et tout ça, et il m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on parle? Alors oui, je me suis assise sur le lit de mon fils, il s'est agenouillé au pied du lit en mettant ses deux mains sur mes genoux, et il m'a parlé de ma mère, mais il m'a sorti des trucs, j'étais en larmes, je ne disais rien, hein, ni oui ni non. Il m'a raconté toute la vie de ma mère, il m'a dit de quoi elle était morte, il a vu les hommes qui ont traversé ma vie, il les a décrits physiquement, et il me disait, mais comment vous savez ça? Et il m'a dit, je suis en connexion avec votre maman. C'est un médium qui est très très connu, hein, il va dans le monde entier.
Est-ce que ça vous a fait du bien?
Ça m'a fait du bien sur le moment. Parce qu'il me disait, êtes-vous en supplie, il n'arrêtait pas de me dire, êtes-vous en supplie, arrêtez de culpabiliser. Alors il faut dire que je suis née à 7 mois et demi, que ma maman a eu une grossesse très 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 compliquée, qu'elle a accouché à 7 mois et demi, elle a été très très abîmée, et les médecins avaient dit à mon père qu'il fallait qu'elle soit suivie. Maman, c'était une force de la nature, une fille de la campagne, les gynécos à l'époque, on voyait peu. Et quand j'ai eu 12 ans, ben en fait, elle a eu un cancer gynéco et j'ai longtemps pensé que j'y étais pour quelque chose.
Ah, oui, ouais,
et là, c'est réglé. Ça fait 40 ans que je suis pas en thérapie. Hein, j'ai fait une thérapie de 25 ans avec une psy. Maintenant, c'est une dame qui est très âgée, mais à qui je téléphone. Nous sommes devenus amis. On se téléphone toutes les semaines. Pardon, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. C'est réglé, ça. Je me sens plus responsable.
Bon, c'est déjà un poids énorme en moins, hein, j'imagine.
Pardon?
C'est déjà un poids énorme en moins.
Oui. Mais cette terreur, quoi. Et là actuellement, ça fait 10 ans, Sabine, que j'ai passé une mammographie. Je suis terrorisée à l'idée de devoir en passer une autre. Alors, bien sûr, la culpabilité, c'est très, très exagéré par la culpabilité de me dire « tu vas être punie ». Les années ont passé, je me suis occupée de beaucoup de personnes et pas de moi. Je me suis dit « tu vas être punie ». Alors, j'ai des petites douleurs quelquefois, à droite, à gauche. Là, vous m'entendez parler, ça va, mais la semaine dernière, j'étais débordée d'angoisse. Et quand c'est comme ça, ma psy, elle n'y peut rien. Elle ne peut pas me récupérer. Il faut que ça passe. J'ai eu un AVC il y a 3 ans. C'était quand même suffisamment grave. Eh bien, j'avais des symptômes qui me disaient, oui, vous avez fait un AVC, mais ça n'explique pas que vous ne voyez plus clair. Pour eux, ça n'avait rien à voir. Eh bien, je me suis dit, ils sont trompés, c'est pas un AVC. J'ai une tumeur au cerveau. J'ai piqué une crise à 11h du soir à l'hôpital. Ils m'ont donné des sédatifs, hein, parce que j'ai...
Oui, vous êtes dans une sorte d'hypochondrie permanente, quoi.
Ah, c'est permanent. Alors, j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui vous a appelé, qui, elle, était aussi hypochondriaque, mais qui, elle, se déplaçait tous les jours, pratiquement, pour voir un médecin. Moi, c'est le contraire. Je me mets la tête dans le sable, je me dis, il faut que tu y ailles. Je suis incapable d'aller passer une mammographie.
Ben oui, vous reprenez le schéma de vous mettre en boule à l'intérieur, en fait.
Complètement. Ma psy m'a dit, je vais avec vous. Elle m'a déjà accompagnée, une dame de 86 ans. Hein. Elle m'a déjà accompagnée il y a quelques années. J'ai tenu à ce qu'elle rentre dans le cabinet de radiologie. Elle était là quand on m'a dit d'attendre les résultats. C'est tout juste si j'étais pas assise sur ses genoux. Parce que toujours, je me réfugie dans ma petite enfance.
Attention, Karine, parce qu'une dame de 86 ans qui a été votre psy, qui est devenue plus ou moins une amie, et sur qui vous faites un transfert, tout ça, ça sert à rien maintenant. Ça ne vous aide pas. Il va falloir passer à la vitesse supérieure au niveau de thérapie, parce que ça c'est très mignon comme histoire et comme relation. Mais
oui,
ça n'a aucune espèce d'efficacité.
Et je me dis, quand il va lui arriver quelque chose, mais j'ai toujours pas coupé.
Non, mais ça, c'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est pas. Enfin, je suis désolée, mais c'est pas très bon de sa part à elle qu'elle vous laisse dans cette dépendance. Ça, c'est pas bon du tout. En fait, elle a pris la place de maman, quoi.
Oui, complètement.
Et donc, elle vous remet dans une angoisse parce qu'elle est âgée et que vous pourriez la perdre.
Complètement. Alors, elle
et
me...
ça,
là,
c'est
quand
urgent
même, elle
d'arrêter ça tout de suite, hein, d'aller travailler là-dessus avec une vraie thérapeute qui est qui consulte encore, vraiment, quoi.
Alors oui, mais ça, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, moi je suis prête à tout faire. Je vous ai entendu parler il y a quelque temps aussi d'une thérapie, c'était trois lettres, celle du milieu, c'était un F comme Françoise.
EFT.
Comment ?
EFT. Et en anglais, c'est Emotional Freedom Technique. EFT. Cette technique de libération émotionnelle, oui, tout à fait. Pour vous, je pensais à la sophrologie pour apprendre à vous calmer.
Oui, alors je me disais la sophrologie, l'hypnose.
Tout à fait. La sophro, l'hypnose et l'EFT sont trois thérapies complémentaires ou séparées d'ailleurs, mais qui pourraient vous apporter beaucoup. Vraiment, la sophrologie pour apprendre à respirer, à vous détendre dans des moments, notamment quand vous allez passer un examen, réapprendre à vous connecter à vous et à lâcher, à vous détendre. L'EFT pour travailler sur ces angoisses-là. Et l'hypnose pour aller travailler sur la petite fille intérieure qui a besoin que vous alliez la prendre par la main pour la faire grandir.
Le MDR, non, c'est pas pour ça.
Le MDR, c'est plus pour des traumatismes. Là, dans votre cas, je serais pas partie sur le MDR. Je pense plus à l'EFT, la sophro ou l'hypnose, oui, tout à fait.
Bon, pourquoi pas. Demain, je vois la psychiatre, parce que la psychiatre me voit tous les mois et demi pour mes médicaments. Je lui en ai déjà parlé, de l'EMDR, elle n'est pas pour, elle a peur que je fasse une décompensation.
Oui, je vous dis, c'est pas vers ça que je vous enverrai non plus pour votre
cas. Quelqu'un qui a une formation classique, hein, qui est très prudente, et elle a peur d'une décompensation.
Non, moi je pense que vraiment la sophrologie, l'hypnose thérapeutique avec quelqu'un de sérieux et l'EFT vous ferait beaucoup de bien. Et notamment vraiment aller travailler, comme vous l'avez tout de suite mentionné, sur cette petite fille qui est en boule à l'intérieur de vous.
Ah voilà, je suis plus capable d'entendre quoi que ce soit. Hein.
Qui a besoin d'aller que vous alliez la prendre par la main pour la faire grandir et lui dire que vous êtes là pour elle aujourd'hui.
Et je me souviens c'est vous que le docteur Lowe avait dit à papa que il y a quelque chose qui n'a pas grandi en moi. Et c'est vrai que j'ai 70 ans, je n'entends, je suis bien qu'avec des jeunes, il paraît que je ne fais pas du tout mon âge. J'ai une relation extraordinaire avec mon petit-fils qui trouve que je suis une mamie super cool.
Bah, tant mieux, ça c'est le bon côté de la situation, profitez-en.
Voilà, mais je n'assume pas. Dès qu'il faut assumer quelque chose...
Non,
dès
vous
que
n'avez
je,
pas
en
grandi.
Fait, dès que je tombe dans tout ce qui est sensibilité, l'émotionnel, je n'assume pas. Donc comment voulez-vous que j'aille passer une thérapie? Je risque de me trouver mal. Une thérapie.
Un examen. Surtout la maman qui est déjà effrayant pour tout le monde.
Oui.
Alors, c'est jamais un examen sympa, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que si vous partez en plus avec cette culpabilité de vous dire « je vais le payer parce que je ne me suis pas occupée de moi », là c'est juste...
Ah oui, non mais de toute façon, j'ai un cancer. J'en ai pas. Je fantasme énormément. Alors je travaille encore un petit peu pour mon fils, donc je ne me vois plus travailler. Je fantasme, je me fais du mal.
Et exactement, parce qu'en faisant ça, vous programmez vos angoisses.
Ah oui.
Vous les construisez de vos propres mains, ces angoisses-là, et vous leur donnez l'occasion de s'exprimer chaque jour. Il faut stopper ça. Et vraiment, malheureusement, ce lien que vous avez créé avec votre thérapeute, même s'il est très sympa, il a été totalement inefficace, du coup.
Ah oui, ben je me rends bien compte. Parce que, si vous voulez, c'est un peu la pensée magique. Je l'appelle, elle me rassure, donc après, bon, ben voilà, quoi, elle a soufflé sur mon bobo, j'ai plus mal, vous voyez, mais je sais que c'est dans la tête, quoi, c'est la pensée magique. Mais elle me dit, hein, elle me secoue. Je peux vous dire que vendredi, elle m'a disputé, il y a une semaine, elle m'a dit, ça suffit maintenant, ça suffit.
Oui, mais en faisant ça, elle se comporte comme une mère, et c'est pas ce qu'il faut.
Oui.
Il faut que vous deveniez vraiment votre propre maman à vous-même.
Oh.
Et oui.
Vous vous rendez compte, je vais avoir 70 ans, Sabine.
Eh ben oui, ben il est temps maintenant d'aller prendre cette petite fille et lui faire comprendre que c'est là, vous êtes sa maman. Vous êtes grande maintenant.
Et oui, et ça, il y a une partie qui ne veut pas.
Et cette petite fille, quand il y a des crises d'angoisse, c'est elle qui s'affole, c'est elle qu'il faut aller chercher pour la calmer.
Voilà. Alors je mange comme quatre, je suis énorme, je mange comme quatre. Là, depuis quelques mois, j'ai sinistré ma maison. Moi qui adorais ma maison, qui tenais mon ménage et tout ça. Mais vous verriez, j'ai en a partout. Je ne fais pas la vaisselle pendant une semaine. Enfin, je suis complètement, mais extrêmement perturbée. Très, très perturbée.
Mais ce qui est bien, c'est que je pense que vous en avez vraiment pris conscience et que vous avez pris conscience que là, il faut changer, quoi. C'est pas possible.
J'ai ce côté qui, voilà, c'est ça, c'est que je suis clivée, complètement clivée. J'ai un côté qui assume complètement, vous rendez compte, avoir accompagné mes amis dans la maladie, avoir accompagné le papa de mon fils, avoir été auprès de lui tous les jours quand il était en soins palliatifs. Mmh. Tout ça, j'assume, hein. Mais alors après, je vous dis pas comment ça se retourne.
Oui, quand c'est pour les autres, forcément. C'est aussi une fuite. Hein.
Oui, complètement.
Et oui.
Complètement. C'est une thérapie. Pendant que je m'occupe des autres, je ne m'occupe pas de moi.
Sauf que c'est une thérapie qui ne fonctionne pas, puisque vous n'allez pas mieux pour autant.
Bien sûr que non.
C'est comme souvent, quand on dit la solution, c'est le problème, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que la solution que vous avez mise en place, ça devient un problème. Parce que ça vous empêche de vous soigner, vous.
Et où est-ce qu'il faut que j'aille voir sur Internet pour trouver
Alors, oui, vous pouvez regarder sur Internet. Vous êtes dans une grande ville ?
Dans le 92.
Oh oui, il y a beaucoup de monde bien en région parisienne.
Oui, je peux aller sur Paris.
Vous demandez aussi aux pharmaciens,
oui.
aux kinés, aux ostéos, à tous les professionnels de santé, parce que le bouche-oreille fonctionne très bien pour ça.
Donc vous me dites plutôt sophrologie, hypnose ou EFT.
Tout à fait, mais souvent vous avez des hypnothérapeutes qui pratiquent l'EFT, ils font les deux. Hein.
D'accord.
Et vraiment le meilleur moyen de trouver un bon thérapeute, c'est d'abord vous regarder un petit peu sur Internet, sur les sites, vous lisez ce qui se dit. Sur les commentaires, et puis après vous demandez surtout aux professionnels de santé autour de vous. Les médecins, généralistes, les pharmaciens, tout ça, ils ont des retours forcément des gens qui vont les voir, ces praticiens-là. Et le meilleur moyen, c'est vraiment le bouche-à-oreille.
Vous savez, je suis très déçue, j'avais un médecin femme qui était formidable, avec tout ce qui se passe avec la sécurité sociale et tout, elle ne vous garde pas plus de 15 minutes. Ben vous savez, 15 minutes, faut aller vite hein, quand on a quelque chose à dire. Je suis très frustrée, moi, maintenant.
Oui, je sais que ça devient compliqué avec les généralistes. Hein,
je sais, c'est pas de leur
et
faute.
Et encore quand ils restent, parce qu'il y en a plein qui ferment cabinet maintenant. Hein.
Oui, je sais, c'est pas de leur faute. Mais moi, en un quart d'heure, alors elle me fait faire des tas d'examens, je reviens avec des examens. Elle me compte carrément de consultations, parce que ben, forcément, ça dure plus d'un quart d'heure.
Oui.
C'est pas de ma faute, elle me fait faire des examens, moi, je les ramène. Donc, lui demander ce genre de choses, je crois qu'elle va me dire non, mais je vais aller regarder sur Internet.
Et ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, ce sont des thérapies brèves. C'est-à-dire que vous n'allez pas partir pour des années de discussion sur un canapé.
Oui.
Vous allez vraiment travailler sur le fond du problème.
Et vous croyez qu'il y a quelque chose qui va enfin me faire grandir et...
Oh là, si vous faites tout ça, oui, j'en suis persuadée. Déjà, vous avez fait la moitié du chemin, vous savez, en prenant conscience, en m'appelant ce soir déjà pour mettre des mots sur tout ça. C'est qu'il y a cette partie de vous qui se dit, bon allez, maintenant il faut que j'en dise, quoi. C'est bon, ça va. Il y a un moment où c'est le moment, un moment où il est temps d'avancer... et de comprendre que cette petite fille est largement temps qu'elle redresse sa tête et qu'elle grandisse.
Mais j'ai vu plusieurs psychiatres, parce que ils partaient, ils me disaient tous, avec vous, c'est difficile, parce que vous avez complètement conscience de ce qui vous arrive. Donc je ne cherchais pas, je savais, seulement après, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors c'est pour ça qu'il faut sortir des thérapies classiques, où effectivement on prend conscience, parce qu'on parle.
Oui,
maintenant,
oui.
À un moment donné, il faut arrêter d'aller travailler avec le conscient et travailler avec l'inconscient et
avec
les émotions. D'où l'intérêt de l'EFT et de l'hypnose thérapeutique. C'est qu'une fois qu'on a bien compris pourquoi on va mal, on s'attaque à comment aller mieux.
Hypnose thérapeutique. Et je peux trouver les deux, alors ?
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'hypnos qui font l'EFT. Et puis la sophrologie, c'est pour moi en plus, vraiment pour vous apprendre à gérer cette angoisse-là.
Et vous le faites, vous, l'hypnose thérapeutique ?
Ah bah c'est
vous l'avez trouvé sur Internet, mais je suis dans le 92 aussi, mais loin de vous.
Non, il y en a plein des très bons hypnos dans le 92.
Il y en a plein.
Éventuellement, vous laisserez à Hassan votre mail après et je vous enverrai quelques contacts. Si
vous êtes gentille, Sabine.
De gens dont je suis vraiment sûre et qui sont des gens bien.
D'accord, je suis à Rueil-Malmaison dans le 92.
D'accord.
Mais je peux me rendre sur Paris, hein. On est très bien desservis.
Mais je vous donnerai quelques contacts de gens dans ces domaines-là qui pourront
super.
Vous aider.
Je vous remercie beaucoup parce que j'ai peur d'aller un peu n'importe où, j'ai peur de tomber dans des sectes, des choses.
Ben oui, forcément.
Pardon,
je me permets de sourire, mais c'est logique. C'est cette petite fille-là encore qui dit « Oulala, mais j'ai peur, moi. Qu'est-ce qu'on va me faire ?» Eh bien, on va lui faire du bien, cette petite fille, justement.
Vous saviez comme j'ai honte de moi.
Oh,
je
non,
me dis,
non,
enfin,
non.
Il me reste quoi, allez, 20 ans, et encore, peut-être 15. Je me dis, mais prof, quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Je me suis dit « J'ai à peu près la moitié de la vie. Qu'est-ce que je vais faire des 40 qui restent ?» Eh bien, j'ai pas avancé.
Mais si,
bon,
je ne suis pas d'accord. Vous avez avancé à votre rythme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Je vais beaucoup mieux que quand
voilà. Il n'y a pas de rythme imposé dans une vie. Chacun avance comme il peut.
Ah oui, j'étais très, très immature. Bah oui, l'immaturité d'une gamine.
Ben, on vous a retiré une maman au moment où vous en aviez énormément besoin. Et en plus, à l'époque, il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de travail fait là-dessus.
Non.
Et on vous a dit grosso modo, bah, débrouille-toi avec ça, quoi, voilà.
Chacun s'est renfermé dans son, avec son chagrin. Je parle, j'ai deux sœurs aînées. J'ai beaucoup de mal à parler de maman, de mes... bon, moi, je leur dis, ma maman était d'assistance publique. Je me dis, ce cancer, elle s'est fabriquée parce qu'elle a eu un très gros trou affectif. Oh, quand je dis ça, mes sœurs me disent, mais t'es pas bien. Ah non, non, faut pas parler psy du tout. Chacun.
Oui, mais voilà, le problème, c'est qu'après, effectivement, ben, on reste en boule.
Oui, complètement. Oui, vous voyez, j'aurais pas pensé à ça, mais c'est tout à fait ça. J'ai 3 ans d'âge mental, donc comment voulez-vous que j'assume? Alors après,
il y a une partie de vous qui est restée petite, mais il y a une partie de vous qui est bien solide et qui est bien grande, heureusement. Et c'est cette partie-là qui va aller sauver l'autre.
Ma psy m'a dit un jour, il y a des années, elle m'a dit, je me demande si vous aviez enfin un cancer, si vous n'en sortiriez pas mieux, parce que vous n'auriez plus peur de l'avoir, vous l'auriez. Donc vous vous défendez.
Oui, enfin, on va éviter. Hein.
Oui, bah, bien sûr.
Non, c'est pas utile d'aller jusque-là.
Bien sûr, mais quand j'accompagnais mes amis ou mon ex-mari en soins, quand je voyais tous ces gens qui, mon Dieu, avaient de l'espoir, alors au lieu de me dire, mais vis, pour le moment, t'es pas malade, profites-en, eh ben non, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi j'en ai pas un, moi? Pourquoi tous
bon,
ces pauvres gens?
C'est fini tout ça, on va se tourner vers le positif, vers l'avenir, il faut qu'on se laisse parce que l'émission se termine. Ne raccrochez pas, laissez votre mail à Hassan.
Okay.
Et je promets que dans la semaine, je vous envoie les coordonnées de gens vraiment bien dans votre secteur.
Adorable, merci beaucoup, Sadie.
Je vous embrasse, Karine.
Merci.
Notre émission touche à sa fin. Un grand merci à vous tous qui êtes venus prendre la parole. Sachez que le week-end prochain, je prends quelques jours de congé. Vous retrouverez donc Sana Blanger qui prendra soin de vous vendredi, samedi et dimanche. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir le week-end suivant. En attendant, je vous quitte avec cette citation de Matt Haig. Où que tu sois, à tout moment, essaye de trouver quelque chose de beau. Un visage, une ligne d'un poème, les nuages à travers une fenêtre, des graffitis, un parc éolien. La beauté nettoie l'esprit. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.